VOA Afrique, les infos. À Washington, Jean-Roger Bion.
Bonjour à tous, il est 11h en temps universel. Un groupe de personnalités africaines, parmi lesquelles d'anciens acteurs de la justice pénale internationale, ont appelé aujourd'hui le Burundi, l'Afrique du Sud et la Gambie à reconsidérer leur décision de se retirer de la Cour pénale internationale, la CPI. Le groupe africain pour la justice et la fin de l'impunité appelle les trois pays à reconsidérer leur décision et à se réengager en faveur du statut de Rome, le texte fondateur de la CPI. Le Burundi a promulgué la semaine dernière une loi prévoyant son retrait de la Cour. L'Afrique du Sud a annoncé dans la foulée son départ du tribunal de La Haye. Dans la nuit de mardi à mercredi, c'est la Gambie qui a annoncé son retrait, accusant la CPI de persécution envers les Africains, en particulier leurs dirigeants. Une centaine de migrants qui tentaient de rejoindre l'Europe sont portés disparus depuis mercredi au large de la Libye, selon les gardes-côtes libyens qui précisent que 29 des 126 personnes à bord du canot sinistré avaient pu être secourues. Depuis une semaine, une centaine de migrants sont morts ou portés disparus au large des côtes libyennes. Au moins 3 800 personnes ont péri et ou ont disparu en mer Méditerranée depuis le début de l'année, soit le bilan le plus élevé jamais enregistré, a déclaré hier à l'AFP William Spindler, le porte-parole du Haut Commissariat de l'ONU aux réfugiés. Au Soudan du Sud, 145 enfants soldats ont été libérés mercredi par deux groupes armés à Pibor, dans l'état de Jonglei. Ces enfants ont été libérés par la SPLA-IO, le principal groupe rebelle de l'ancien vice-président Riek Machar, et par la faction Cobra, un ancien mouvement rebelle. Pour plus de détails, Claire Morin-Jibou a joint le représentant de l'UNICEF au Soudan du Sud, Maimbo Mdo.
Bon, on travaille avec les autorités, on travaille avec les groupes armés. En fait, on travaille avec n'importe qui. Il détient ses enfants, pourquoi ils soient libérés. On a 10 bureaux qui sont partout dans le pays. Alors, ces bureaux de zone, ils sont en contact avec ces différents milices et on négocie avec eux. Comme à celui-là, on n'avait pas libéré des enfants depuis 2015. Alors, on a fait une année de négociation pour relâcher ces 145 enfants. Parfois, oui, c'est vrai, ça prend beaucoup de temps. Mais pour nous, une enfant dans l'armée, c'est une enfant de trop.
À combien estimez-vous le nombre d'enfants soldats au Soudan du Sud ?
On estime qu'il y a 16 000 enfants dans le Soudan du Sud qui sont dans les groupes armés différents dans le pays.
Alors, la libération de 145 enfants, même si c'est effectivement une bonne nouvelle, ça reste une goutte d'eau.
Oui, c'est une goutte d'eau, mais il faut prendre une étape à la fois. On a déjà fait 1 800 et il faut continuer parce que le Sud-Soudan, il a toujours des problèmes d'insécurité. On fait tous nos efforts ici au UNICEF, même si c'est un enfant. Cet enfant doit être libéré de ses groupes armés. On ne croit pas que les groupes armés, c'est la vie pour un enfant.
Est-ce que vous assurez le suivi de ces enfants ? Parce que, bien évidemment, quand on quitte comme ça des groupes armés, les conséquences psychiques, psychologiques peuvent être importantes.
Oui, absolument. C'est une des choses les plus importantes. Alors aujourd'hui, on était à Pibor. Ils ont libéré les enfants. Après la libération, les enfants étaient conduits dans un centre pour un suivi psychologique pour une semaine. En même temps, on va essayer de trouver leur famille et leur communauté pour les réintégrer. Et ça, c'est le côté le plus difficile de ce programme, c'est la réintégration. Ça demande un suivi au minimum, au moins 3 ans, 4 ans, pour que ces enfants soient chez eux, qu'ils se sentent chez eux, et que les autres communautés les acceptent. C'est ça qu'on est en train de faire. Heureusement, jusqu'à ce moment, la réintégration se fait bien parce que pour Pibor, à ce moment, il a quand même un peu de calme. Et ses enfants, ils ont l'opportunité de retourner chez eux et on espère vivre une vie normale.
Maimbo Mdo, le représentant de l'UNICEF au Soudan du Sud. Le premier ministre français Manuel Valls effectue à partir de demain une tournée en Afrique de l'Ouest, notamment au Togo, au Ghana et en Côte d'Ivoire, afin d'y afficher le soutien de Paris au processus démocratique dans la région, tout en travaillant à sa statue internationale lui-même. Le Premier ministre français doit passer environ 24 heures dans chaque pays, d'abord au Togo à partir de vendredi soir, puis au Ghana et en Côte d'Ivoire. Sommet international sur la crise en République démocratique du Congo, à Luanda, L'accord politique trouvé au dialogue de Kinshasa a été approuvé par les chefs d'État présents. Le point, Eddy Sango.
Quatre présidents, dont Joseph Kabila, sur les 13 que compte la conférence internationale sur la région des Grands Lacs, des représentants de la SADC, de l'Union africaine et des Nations unies ont entériné l'accord issu du dialogue congolais au terme de ces sommets d'un jour à Luanda. L'Angolais Edouard Dos Santos, hôte de la réunion, a salué l'accord et affirmé qu'il ne soutenait pas un dialogue pour les dialogues, mais plutôt celui qui préserve et suscite la sagesse et conduit à des positions de consensus. Pour M. Dos Santos, allié de Kabila, l'opposition congolaise qui a boycotté ces dialogues devrait patienter jusqu'aux élections en 2018 plutôt que de se lancer sur le chemin incertain de la violence. Il a appelé ses opposants à participer au gouvernement d'union nationale pour préserver la paix. La plus grande partie de l'opposition congolaise a rejeté les conclusions du dialogue et veut continuer à manifester pour réclamer le départ de M. Kabila à la fin de son mandat le 20 décembre, comme prévoit la Constitution.
Vous êtes bien sur VOA Afrique, 24 heures sur 24 en RDC, à Lubumbashi évidemment sur le 102.8 FM.
Un général américain a indiqué aujourd'hui à l'AFP qu'entre 800 et 900 combattants du groupe État islamique auraient été tués depuis le début, le 17 octobre, de l'offensive terrestre des forces irakiennes pour reprendre le fief djihadiste de Mossoul. Le commandant des forces américaines au Moyen-Orient a toutefois souligné qu'il était difficile de fournir des chiffres précis alors que les combattants de l'État islamique se déplacent autour de Mossoul et tentent de se fondre dans la population. L'offensive lancée il y a 10 jours se concentre pour le moment sur les localités et villages des alentours de Mossoul. La résistance pourrait être plus importante quand les forces irakiennes vont tenter de franchir les lignes de défense de l'État islamique et d'entrer dans la ville. Présidentielle américaine 2016, Hillary Clinton continuait hier à faire campagne en Floride, État qui pourrait à lui seul lui ouvrir les portes de la Maison-Blanche. Jacques Aristide.
La Floride, dont 23% de la population est hispanique, est le gros de la dizaine d'États clés où se jouera l'élection. Il permettra d'engranger 29 grands électeurs quand il en faut 270 pour gagner la présidentielle. Un nouveau sondage montre Donald Trump en tête en Floride. Cette enquête d'opinion de Bloomberg montre le républicain à 45% des intentions de vote contre 43% pour Mme Clinton dans une course incluant les deux petits candidat, le libertarien Gary Johnson et la candidate des Verts, Jill Stein.
Un vote historique à l'Assemblée générale des Nations unies. Pour la première fois, les États-Unis et Israël n'ont pas voté contre la levée de l'embargo américain sur Cuba. Gabi Dorsil.
Depuis 1992, quand l'Assemblée générale a commencé son vote annuel sur la levée de l'embargo, les États-Unis et leurs fidèles alliés israéliens avaient toujours voté contre. Mais nous sommes en 2016. Barack Obama et Raúl Castro ont initié un rapprochement allant jusqu'à l'ouverture d'ambassades à La Havane et Washington. Les choses ont changé entre les deux anciens ennemis de la guerre froide. Et c'est sous des applaudissements nourris que Samantha Power, la représentante du gouvernement américain à l'ONU, a annoncé que cette année, Washington a choisi l'abstention. Le vote final, sur 193 membres, 191 ont voté pour la levée de l'embargo. Deux abstentions, les États-Unis et Israël. Madame Power a néanmoins précisé que ce vote n'équivaut pas à un soutien de toutes les politiques et pratiques du gouvernement cubain. Somme toute, le vote qui plairait davantage à La Havane, c'est celui du Congrès américain, aujourd'hui dominé par les républicains, qui sont encore pour le maintien de l'embargo.
La Colombie et la guérilla de l'ELN doivent lancer aujourd'hui à Quito un dialogue de paix destiné à clore le chapitre de plus d'un demi-siècle de conflits armés, mais conditionné à la libération d'otages toujours détenus par cette rébellion. C'est pour parler avec l'ELN, vont ouvrir un nouveau front pour le président Juan Manuel Santos dans son engagement à mettre fin à une guerre fratricide qui a fait des centaines de milliers de morts et de disparus. À l'origine, le processus avec l'armée de libération nationale, ELN, devrait suivre la signature d'un accord historique avec les FARC, la première guérilla du pays. Mais à la surprise générale, ce pacte a été rejeté par les Colombiens lors d'un référendum le 2 octobre. Et puis, l'ex-président du Brésil, Luiz Inácio Lula da Silva, visé par une enquête dans le cadre du scandale pétrolier, Petrobras a déposé plainte auprès de la Commission des droits de l'homme, qui a indiqué jeudi un porte-parole de l'ONU. Merci de nous avoir suivis et à bientôt.
Sur VOA Afrique.